Mexique. Le documentaire tourne autour de Tulum. Finalement, la plupart des tours opérateurs, on va dire, hein, si on parle de voyage, conseille Tulum comme justement une destination qui a encore été un peu épargnée par le tourisme sur la côte des Caraïbes, à côté des voisines comme Cancun ou Playa del Carmen qui ont été ravagées un peu par le tourisme de masse. Est-ce que Tulum est sur cette voie-là aujourd'hui ?
Oui, Tulum comme destination pseudo-alternative a fait son temps. Tulum aujourd'hui est vraiment sur la voie de la massification, de la standardisation du tourisme au même titre que Playa del Carmen, Cancun. Les trois localités au départ sont des villages de pêcheurs qui ont commencé à grossir de manière exponentielle à partir des années 60, 70, etc. quand le Mexique, l'État mexicain a décidé de développer le tourisme dans cette région. Et aujourd'hui, Tulum qui était relativement épargné jusqu'à encore quelques années, suit les mêmes tendances à l'expropriation, à la pression immobilière, à la pression foncière. Le taux de croissance d'expansion urbaine de Tulum ces dernières années, c'est plus de 15%. Donc effectivement, on a le même développement urbain anarchique sur Tulum que celui qu'on a connu à Playa del Carmen et à Cancun. La région, c'est la Riviera Maya, c'est 130-135 km entre Cancun et Tulum. Il faut le redire parce que c'est en superficie, c'est à peine une fois et demie la taille de la Belgique, c'est moins de 2 millions d'habitants et cette région du Mexique reçoit, des années normales, c'est-à-dire hors pandémie, 20 millions de touristes chaque année. Donc 20 millions de touristes dans cette région de moins de 2 millions d'habitants. Donc,
c'est ce qui place finalement le... Alors il n'y a pas que la zone côtière hein, qui n'est pas épargnée par le tourisme, finalement c'est l'ensemble du Mexique qui est parmi le top 10 des destinations les plus visitées de la planète.
Oui, en 2019, donc la dernière année normale avant pandémie, le Mexique était 7e dans ce classement des destinations mondiales. Grâce à la pandémie, à la faveur de la pandémie, en 2021, le tourisme est monté à la deuxième place. Le Mexique est le pays le plus visité après la France.
Parce qu'ils n'ont jamais fermé leurs frontières.
Pour des raisons très pratiques, effectivement, malgré que la pandémie a frappé le Mexique de manière très importante, c'est plus de 350 000 victimes. La surmortalité au Mexique, c'est plus de 350 000 morts liés à la pandémie. Parallèlement, le Mexique est un des seuls États au monde à ne pas avoir imposé de restrictions aux visiteurs. Le résultat, c'est effectivement que le Mexique est monté à la deuxième place. En 2021, 7% des touristes mondiaux sont allés au Mexique. C'est la destination principale des touristes nord-américains, par exemple.
Alors, on l'a vu hein, dans le documentaire, les impacts de ce tourisme excessif, quelque part. Finalement, le tourisme, on va en parler de manière générale, mais au Mexique, il a des bons et des mauvais côtés. Quels sont les bons, déjà ?
Oui, c'est le secteur du tourisme, l'industrie touristique crée énormément de bénéfices, mais également des coûts. Et le gros souci, c'est qu'au Mexique, comme ailleurs, ces bénéfices et ces coûts sont très mal répartis. Le tourisme au Mexique apporte des devises, apporte des infrastructures, crée des emplois. C'est un secteur en croissance, effectivement, continue depuis plusieurs décennies maintenant. Mais l'autre versant de cette réalité, c'est que ces coûts et ces bénéfices sont très mal partagés. Les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts culturels, c'est la population locale qui les supporte. Le meilleur bilan qu'on peut faire du tourisme, de l'impact du tourisme au Mexique ces dernières décennies, c'est de se rendre compte que dans les régions touristiques les plus visitées, donc la péninsule du Yucatan, dont le documentaire parle, c'est dans ces régions que les taux de pauvreté sont les plus importants. Donc on a un secteur qui crée énormément de richesses, plus de 10% du produit intérieur brut mexicain, plus de 35% du produit intérieur brut de l'état de Quintana Roo, donc là où se trouve la Riviera Maya. Mais ces richesses sont très mal réparties. Plus de 50% de la population de la péninsule du Yucatan vit sous le seuil de pauvreté. La FAO, par exemple, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, publie chaque année un rapport très intéressant qui nous indique qu'au Mexique, dans cette région-là, un enfant sur trois ne mange pas sa faim dans le sud du Mexique. Un enfant sur trois. Dans les régions indigènes, dans les régions mayas, la proportion est encore plus problématique. Donc, comment est-ce possible que dans une région où le tourisme est si florissant, apporte tant de richesses au pays, comment est-ce possible que les taux de pauvreté sont allés en augmentant ces dernières années et que les inégalités sociales se sont creusées.
Après, le Mexique connaît une classe moyenne quand même qui s'est développée, mais si j'entends bien, ce n'est pas forcément grâce au tourisme.
En partie, oui, parce qu'effectivement, certains secteurs profitent du tourisme, mais globalement, les tendances sont problématiques. Les taux de pauvreté, encore une fois, dans ces états touristiques, sont parmi les plus importants du Mexique, plus de 50% de la population.
Et pourtant, le pays semble en vouloir encore plus. Finalement, il prépare aujourd'hui des grands chantiers, les Mexicains.
Tout à fait. La grande affaire actuelle, c'est la construction du train Maya. C'est à ça sans doute que vous faites allusion. Le train
Maya,
c'est pas...
On n'en parle pas dans le documentaire, mais oui, effectivement.
Oui, parce que c'est vraiment très actuel. C'est un projet du président actuel, López Obrador, le président en fonction, président de centre-gauche, qui a décidé d'investir massivement dans la construction d'un immense train Maya, 1500 km d'une boucle ferroviaire qui va traverser toute la péninsule du Yucatan pour booster le développement, pour booster le tourisme, pour lutter contre la pauvreté d'après le gouvernement. Le problème, c'est que le projet est très controversé. Le gouvernement dit avoir consulté les populations locales, consultation comme l'Organisation internationale du travail le dit, consultation préalable, informée et libre. Les populations locales disent que non. Et donc il y a pas mal de contestations, pas mal de mobilisations indigènes contre le train Maya. Et actuellement, donc ça date de fin mai, le tronçon en construction entre Tulum justement et Playa del Carmen est à l'arrêt. Il est devant les tribunaux en raison de protestations d'associations environnementalistes et de mouvements indigènes, qui s'opposent donc à ce projet modernisateur qui, à leurs yeux, va créer davantage de problèmes environnementaux et sociaux que de participer à l'enrichissement, au développement du Mexique.
Donc train Maya, il y a aussi un deuxième aéroport qui serait en cours de préparation.
Exactement, je vous ai dit Quintana Roo, tout petit, à moins de 2 millions d'habitants. Il y a un aéroport international à Cancun où se déversent quotidiennement, ou débarquent quotidiennement les touristes nord-américains et européens. Il y en aura un qui devrait être inauguré en 2023 à Tulum même, donc l'ancien petit village de pêcheurs qui aujourd'hui compte déjà plus de 50 000 habitants et qui cesse de croître, un aéroport international en construction à Tulum avec comme objectif de continuer à profiter de la manne touristique, mais qui, je vous l'ai dit, est hélas très mal répartie. La concentration des bénéfices du tourisme est évidente. De 10 euros qu'un touriste dépense pour passer ses vacances au Mexique, 3 à peine restent dans le Quintana Roo. Donc il n'y a pas de répartition équitable des bénéfices. L'essentiel des bénéfices sont rapatriés au siège des multinationales, des chaînes hôtelières, et échappent donc aux populations visitées.
On le voit aussi hein, dans le documentaire, les chantiers de construction, là vraiment de construction immobilière, où finalement il y a une main d'œuvre qui vient des quatre coins du Mexique et qui vit dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions évidemment des touristes qui viennent là.
Ce boom urbain crée évidemment de l'emploi de toutes les régions du Mexique et même de l'Amérique centrale, du Guatemala, du Honduras, etc. Les gens, les pauvres, viennent pour travailler, pour participer à la construction de ces zones touristiques, parce que le salaire y est effectivement plus important que ce qu'ils ont ailleurs au Mexique.
On parle de quel salaire ?
Mais le salaire, je crois que le documentaire en parle, si je me souviens bien, mais si le salaire moyen au Mexique est de plus ou moins 400-500 $ par mois, lorsqu'on travaille sur un chantier de la construction dans cette région du Mexique, on reçoit entre 300 et 400 dollars, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on reçoit pour un même travail ailleurs. Et donc, le résultat, c'est que plus de 50% des populations de Tulum, de Playa del Carmen et de Cancun sont constituées de migrants internes pour la plupart, mais aussi de centro-américains, qui sont là pour travailler, pour des travaux souvent précaires, la construction évidemment des hôtels, mais aussi des services touristiques dans les hôtels eux-mêmes. Et donc cette population, le documentaire en parle un petit peu, mais pas suffisamment à mes yeux, ce sont ces gens qui viennent grossir ces villes, ou plutôt les périphéries de ces villes, dont les centres sont de plus en plus gentrifiés, et l'extérieur, ce sont vraiment des bidonvilles. Ces gens, le soir, retournent dans leur cabane. La plupart vivent sans eau et sans électricité dans cette région riche pourtant, pour pouvoir donc travailler 6 jours semaine, entre 10 et 12 heures par jour, pour le
loin de leur famille aussi.
D'où les soucis psychologiques que le documentaire évoque également, manifestement, le bilan en matière psychologique du tourisme dans cette région est également problématique. Le taux de suicide serait plus important dans cette région que dans le reste du Mexique, par exemple, parmi ces travailleurs du tourisme donc, qui se isolaient loin de leur famille. Et qui ont peu de temps pour eux, finalement, hors de leur travail quotidien dans ces chaînes hôtelières.
Et il y a évidemment un contraste énorme hein, entre les 400 euros dont on parle que gagne l'ouvrier et la nuit à 1000 euros ou le prix de la nourriture
sur
place, le repas qui se fait à 400 euros.
Le problème vient de là. Plus la symétrie est forte entre le visiteur et le visité, plus les problèmes sont, plus la relation est malsaine. Mmh. Le rapport il est de 1 à 8, de 1 à 10. Donc pour un même travail, le touriste gagne 8 à 10 fois plus que ce que le travailleur mexicain gagne. Et donc dans un rapport comme celui-là, on est à l'abri d'aucune dérive. Quand le documentaire en parle également, mais quand un gramme de cocaïne ou d'ectasy ou que sais-je, ou n'importe quelle amphétamine vaut pratiquement l'équivalent d'un salaire minimum mensuel, on n'est à l'abri d'aucune dérive, évidemment. Beaucoup de Mexicains tentent de profiter à la marge du tourisme en vendant de la drogue aux touristes, par exemple.
On va poursuivre, hein, et notamment avec ce problème de la drogue en deuxième partie. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Les enseignants sont fatigués et n'en peuvent plus.
On ne sait pas faire grand-chose de qualité. La pandémie de Covid-19, finalement, a accentué le phénomène du décrochage scolaire.
C'est désormais l'inflation qui inquiète les commerçants.
En ce moment, il y a des gens qui télétravaillent parce que ça leur coûte moins cher que d'aller au bureau.
Dessiner dans les périodes de crise, c'est un moment où on est important, nous les dessinateurs.
Aujourd'hui, on s'intéresse à la fracture numérique. C'est forcément un vecteur d'exclusion sociale.
Il y a un énorme travail à mener sur les mentalités.
En 2022, il n'y a plus de tabou, on doit pouvoir parler de tout et à comprendre l'autre.
Si on combat ensemble le patriarcat, on va pouvoir arriver à une forme d'égalité.
Deuxième partie de ce grand doc consacré à Tulum, une station balnéaire très chic du Mexique. Alors Bernard, on va poursuivre peut-être ces discussions avec l'impact aussi sur les populations indigènes. Le Mexique, ou en tout cas dans cette zone du Mexique, il y a énormément de communautés qui existent. Déjà, qui sont-ils? Quelles sont leurs conditions de vie?
Oui, la péninsule de Yucatan, jusqu'il y a quelques temps, était majoritairement habitée par des Mayas. C'est moins le cas actuellement en raison des migrations dont je vous ai parlé, en raison du mélange de populations. Mais la question de l'identité indigène est problématique, elle est controversée. Évidemment, c'est très difficile de dire qui est indigène, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on calcule que plus d'un million et demi de Mayas parlent leur propre langue dans la péninsule du Yucatan. Mais d'autres Mayas également vivent dans la ville, n'y parlent plus vraiment leur langue, travaillent dans le tourisme. Sont-ils encore Mayas ou pas? Oui, sans doute, mais c'est à eux de le dire. Cette question de l'identité indigène est problématique. Mais une tendance certaine, c'est que majoritairement, même si une partie de ces Mayas profite à la marge du tourisme, par les petits boulots, par les travaux, dans les emplois dans les chaînes hôtelières, la grande majorité constitue le décor humain de l'industrie touristique. Les publicités pour des tours opérateurs pour le tourisme au Mexique, c'est eux qu'on voit en photo. Et en réalité, là-bas, ils ne sont pas des acteurs. C'est le décor humain, décor passif. Et leur civilisation qui est idéalisée ou plutôt folklorisée, voire simplifiée par les tours opérateurs, elle est marchandisée, elle est utilisée, mais au détriment ou à l'insu des populations indigènes.
On parlait notamment des chamans, de ce qu'on a vu dans le documentaire.
Le documentaire indique bien, donc cette mascarade, ce simulacre, cette inter-instrumentalisation d'une prétendue culture maya. Une collègue parle de l'authentique en toc. C'est vraiment ça qui est vendu aujourd'hui dans cette pseudo-expérience spirituelle où, soi-disant, on fait revivre des traditions mayas. Il n'en est rien, évidemment, le documentaire l'a bien compris, mais ça fonctionne aujourd'hui sur le marché touristique.
Et quelle est la parole, finalement, de ces mayas ou de ces autres communautés? Quelque part, est-ce qu'ils ont des revendications? Est-ce qu'ils sont organisés aussi face à ce tourisme dont ils n'ont pas de bénéfices?
Oui, partiellement organisé. C'est tout ça la difficulté, bien évidemment. Une partie de ces populations, je vous l'ai dit, profite à la marge du tourisme. Une autre partie vivent à distance, plus ou moins passivement, en tous les cas sans possibilité, sans capacité d'action pour agir sur cette industrie touristique. Mais une partie, donc tout de même significative, de celles des indigènes sont effectivement mobilisées aujourd'hui au sein d'une organisation qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant, si pas 25, le Congrès national indigène, qui rassemble effectivement une série de mouvements indigènes les plus mobilisés, les plus politisés des indigènes mexicains. Le Mexique, pour rappel, est le principal pays indigène d'Amérique latine en valeur absolue. C'est au Mexique qu'il y a le plus d'indigènes. On est à entre 10 et 15 millions d'indigènes, dont une grande partie donc, dans le sud-est du Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Et donc, au sein de ce Congrès national indigène, ces mouvements, ces mobilisations, effectivement, défendent leur point de vue, défendent leurs droits, s'opposent à la construction aujourd'hui du train Maya, avec certains résultats. Je vous ai dit, le tronçon de la construction du train Maya entre Tulum et Playa del Carmen est suspendu pour le moment. Et des revendications d'autonomie également, des revendications d'inscrire la maîtrise sur leurs propres ressources dans la constitution mexicaine. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, et en tout cas ce qui n'est pas du tout respecté dans les réalités, parce que le tourisme a vécu de cette logique de vie, de cette logique de prédation, d'appropriation privative des ressources, des terres, indigènes. C'est ça le grand problème, c'est que la pression touristique accroît donc la pression sur une série de ressources et les rend inaccessibles aux premiers habitants. L'eau devient beaucoup plus chère, l'électricité devient beaucoup plus chère, le logement devient beaucoup plus cher et les terres effectivement sont accaparées pour des projets touristiques notamment pour la construction du train Maya au détriment encore une fois des populations locales.
Le film est assez pessimiste hein, finalement face à ce mouvement de tourisme destructeur, massif. Est-ce qu'il y a, selon vous, un tourisme moyen, ou est-ce qu'il y a des solutions, ou est-ce que, on n'en parle pas non plus, mais là je fais une très longue question, mais sur place, les gouvernements locaux, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des réglementations qui sont mises en place? En gros, quelles sont les solutions?
Oui, il y a des solutions. Les marges d'action sont d'autant plus importantes qu'on a affaire au secteur quasi le plus dérégulé de l'économie mexicaine. Ce qui a dominé ces dernières décennies, c'est la dérégulation du secteur. Au départ, le tourisme au Mexique, c'est une affaire lancée par l'État mexicain. En tous les cas, dans la péninsule du Yucatan, c'est l'État dans les années 60-70 qui investit énormément pour construire, faire sortir de ces villages de pêcheurs de grands hôtels qui commencent à bétonner la péninsule du Yucatan. Mais à partir des années 80, l'État refile la patate chaude, refile cette aubaine au marché. Et donc depuis lors, on parle dérégulation, libéralisation, privatisation. Et donc les marges de manœuvre sont très importantes. On a affaire à un secteur tellement dérégulé que les solutions, elles sont dans la régulation que l'État mexicain devrait opérer sur la façon dont se joue le tourisme aujourd'hui. Régulation sociale, régulation environnementale, régulation culturelle également. En réalité, l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, a un discours paradoxal à l'égard des États nationaux. Paradoxal pourquoi ? Parce que cette OMT consciente également, comme nous, comme le CETRI, consciente également des problématiques soulevées par le tourisme, l'OMT appelle un tourisme plus responsable, plus équitable, plus durable. Donc si l'OMT appelle à cela, c'est qu'elle est effectivement consciente qu'il y a un souci pour le moment. Mais dans le même temps, et c'est là que son injonction est paradoxale, dans le même temps, elle incite les États à gagner en compétitivité, en touristicité. C'est le mot qui est employé notamment dans le classement établi par le Forum de Davos, qui établit un index mondial de la compétitivité, de la touristicité de tous les pays du monde. Et pour grimper dans cet index, il faut baisser les normes, il faut baisser les régulations. C'est en cela que l'injonction de l'OMT, qui devrait être une instance régulatrice, à l'égard des États nationaux, est paradoxale. D'un côté, elle invite à davantage de régulation, relevez vos normes sociales, relevez vos normes environnementales pour que le tourisme ne soit plus aussi prédateur, pour que les bénéfices du tourisme soient mieux partagés localement, mais par ailleurs, ne freinez pas le développement du tourisme. Ne venez pas avec des barrières douanières, des freins fiscaux et trop de normes qui risquent d'affaiblir votre compétitivité parce que le terrain est très concurrentiel. Je montre la carte de l'Amérique centrale et des Caraïbes là. Le Mexique est en concurrence ouverte et quotidienne avec les destinations des Caraïbes. Le marché s'est ouvert. Cuba est devenue une grande destination touristique, la République dominicaine et le reste des Caraïbes. Et donc on est dans une compétition entre États du Sud pour attirer les investisseurs extérieurs sur leur propre territoire. Et donc on est plus dans une régulationniste, dérégulatrice, je ne sais pas comment on dit en réalité, que dans une tendance régulatrice. Or, les solutions, elles sont là.
Et surtout aussi, il y a peut-être aussi un problème de conscience, c'est-à-dire que, par exemple, au Mexique, dans la réserve de Xiamcan, qui est à côté de Tulum, on demande aux touristes de ne pas mettre de crème solaire parce que celle-ci impacte finalement les eaux. Donc, oui. Il y a... Voilà, alors peut-être que c'est, non, c'est une goutte d'eau, mais...
Oui, une goutte d'eau, c'est le cas de dire, c'est du greenwashing, du divertissement de façade, bon, c'est très bien, mais c'est micro. Les régulations dont on a besoin, c'est celles qui empêchent que le tourisme détruise l'environnement, c'est celles qui empêchent que le tourisme soit plus néfaste pour les populations locales et pour leur environnement que bénéfique. Et donc c'est des régulations de fond, c'est des mécanismes de redistribution, c'est des mécanismes de protection, de préservation, au-delà effectivement des incitations aux touristes à ne pas employer des crèmes solaires plus ou moins polluantes.
Est-ce qu'avec l'arrivée de la drogue, hein, parce que finalement c'était une zone qui était suffisamment épargnée, par avant on parlait un peu d'autres états, notamment l'état de Guerrero, ou le nord du Mexique pour ses trafics de drogue et ses bandes rivales, aujourd'hui, le fait que ça arrive dans des zones touristiques, ça devient ennuyeux pour le gouvernement ?
Tout à fait. Donc, les cellules locales des grands cartels de la drogue mexicains, qui étaient jusque-là effectivement plutôt au dos, disons, pour faire court, ou au centre du pays, les cellules locales aujourd'hui, le documentaire le dit, mais également un reportage tout récent du Monde, ces cellules locales se disputent aujourd'hui le marché et à coup d'extorsion des commerçants. Ce qu'on appelle là-bas le derecho de piso, donc des loyers mafieux que les dealers exigent aux commerçants, payez-nous ceci, sinon on vous rend la vie impossible. Et donc ils sont très présents aujourd'hui, à coup également de règlements de compte entre les différents cartels concurrents, mais encore une fois, oui, comme je vous l'ai dit, dans une situation où un gramme de drogue vendu à un touriste gringo qui se promène sur la Riviera Maya vaut l'équivalent d'un salaire minimum mensuel, on est à l'abri d'aucune dérive et donc le marché est florissant et les résultats aussi de cette dérégulation ambiante.